vous gardez à peu près toujours, je crois, la même place dans une famille. Et que moi, je suis la petite dernière, j'ai 57 ans. Ça bouge parfois un peu, mais aux yeux de mes grands frères et grandes sœurs, je suis toujours la petite dernière.
Bonjour. Il y a des papiers sur la table, ils sont pliés et cachent des mots choisis pour notre invité. Ils vont nous aider à vous raconter son parcours et qui elle est. C'est le podcast des petits papiers. Sa voix, vous la connaissez si vous êtes fidèle à la première, son visage aussi depuis l'époque des SNUL. Et si vous aimez le spectacle, vous l'avez sûrement aussi applaudi sur scène ou seule en scène. Elle avait d'ailleurs dit qu'on ne les reverrait plus. Et puis après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis peut-être. Elle qui, dès l'enfance, s'est appliquée à faire rire sa mère, qui fut sa première spectatrice et qui l'a encouragée à devenir la femme qu'elle est aujourd'hui. Une femme qui a fait du chemin depuis l'enfance, s'est désencombrée de bien des choses et affirme dans son nouveau spectacle qu'elle est bien dans ses baskets. À 3 ans de la soixantaine et depuis qu'elle est devenue grand-mère. Une grand-mère qui entend dépoussiérer l'image de la bobonne, attribution qu'elle porte pourtant fièrement, même si ça lui en a un tout petit peu coûté au départ. Laurence Bibeau est donc bobonne star sur scène et c'est l'invitée des Petits Papiers aujourd'hui. Bonjour Laurence.
Bonjour Régine.
Vous allez bien ?
Oui, très bien.
Alors, je conseille tout de suite aux auditeurs, aux éditrices qui nous écoutent d'aller voir votre spectacle. J'ai passé un excellent moment, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en plus, ça m'a fait du bien. Je suis sortie de ce spectacle. Je ne sais pas très bien pourquoi, mais j'étais bien.
Eh bien, moi aussi, figurez-vous que sorte. Il y a quelque chose de l'ordre de la communion. Il y a un truc qui se passe aussi avec le public. Je pense que j'ai vraiment un plaisir à le jouer. J'ai aussi une technique j'ai acquis sans doute une certaine dextérité, une technique qui me permet d'être à l'aise et de plus penser à ce que je fais, mais de le faire, qui fait que je m'amuse aussi, moi, avec le public. Et que c'est comme s'il y avait une complicité directe aussi avec les gens qui sont là. Je suis contente d'être là. J'ai pas une once de trac, ce qui est plutôt...
Ah, c'est vrai ?
Ah oui, c'est vrai. Alors, je suis concentrée, mais j'ai pas de trac. Et je pense que c'est très agréable, en tant que public, de voir quelqu'un qui n'a pas le trac.
C'est différent des autres fois, des autres spectacles ?
C'est pas très différent. C'est différent de jeux playback, où c'était des extraits des playbacks que j'avais. Donc là, c'était plus formel. Les autres, c'est pas très différent, mais ça englobe peut-être plus de choses que dans les précédents stand-up, puisqu'il y a ici, il y a plusieurs couches, quoi.
Mais quand je vous demande si c'est différent, c'est, je veux dire, le trac et le rapport à ce spectacle, et peut-être le fait que vous dites je sors bien de ce spectacle.
j'ai de moins en moins le trac, alors Jacques Brel, qu'on ne va pas citer parce que ça m'a toujours très fort énervé, avait des espèces de phrases définitives là-dessus. Moi, je suis tout à fait contre l'idée qu'il faut avoir du trac et que c'est ça le talent. Je pense qu'au contraire, on a la technique, on maîtrise bien son art ou son boulot et on n'a pas besoin d'avoir le trac.
Ouais.
C'est pas nécessaire. C'est pas du tout pour ça qu'on s'en fout, qu'on n'est pas concentré ou qu'on n'essaye pas de faire le mieux. J'essaye vraiment et je sais aussi que c'est un métier technique. Donc ça, je réfléchis à comment je vais l'amener ou la rapidité, le rythme. Mais c'est plaisant et j'ai pas envie que les gens y voient quelqu'un qui a un peu peur. J'ai envie qu'ils voient quelqu'un qui est content d'être là et qui va les emmener.
Qui s'amuse.
Oui,
c'est ce que vous avez l'air de faire en tout cas.
Absolument.
Laurence Bibeau, Bobonne Star, c'est un peu l'histoire, c'est sans doute votre histoire, mais d'une femme qui a 57 ans et qui arrive à un âge où elle se dit qu'elle ne va plus s'emmerder avec ce qu'on lui dit de faire et qu'elle va faire ce qu'elle a envie de faire.
Oui.
Et ce qu'elle a envie de faire, elle qui a fait de la scène, qui est humoriste, donc vous, c'est qu'elle a envie de chanter.
Oui.
Voilà, donc elle va chanter du Françoise Hardy.
Oui.
Et elle s'en fout en fait de savoir si ça va emmerder les gens ou pas en fait.
Oui, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que je m'en fous moyennement parce que je sais que si ça ne leur plaît pas, ça va être long. Mais je vais le faire quand même. Et je ne sais pas très bien vous dire pourquoi c'était plus fort que moi. Je sais que cette chanson, elle me hante et elle est là depuis... Enfin, ce n'est pas qu'elle me hante, c'est qu'elle m'habite, si vous voulez, depuis vraiment que je suis toute petite.
La chanson, c'est Star de Françoise Hardy.
Absolument. C'est vraiment une chanson assez mélancolique qui est longue, et je l'annonce tout de suite, qui est une chanson vraiment sur les... C'est une confession sur ce que ça peut être le métier de star. Moi, je trouve que c'est très, très à la fois romantique et à la fois assez...
C'est terrible, quand même, aussi,
Oui, mais c'est vrai. Je trouve que ça reflète bien ce que c'est. Et puis, je crois qu'il y avait dans cette chanson Françoise Hardy qui interprétait ça d'une manière un peu timide. Et sans doute qu'inconsciemment, je me suis dit quand j'étais jeune, ah oui, en fait, on peut être un peu réservé, timide et être une star. Et ouais. Ça m'arrangeait bien parce que j'avais une nature un peu farouche. Et donc, je pense que mon idée, c'était d'être une star.
Vous aviez envie d'être une star petite,
ouais. Je crois. Ouais. Mais je savais pas, je me rendais pas compte. Mais aujourd'hui, je me dis à mon avis, oui. Enfin, j'avais envie de vivre ces trucs-là. J'avais envie de vivre aussi les mauvais côtés, de vivre aussi, de me dire, en fait, c'est aussi parfois difficile. T'es toute seule, et puis on t'offre des fleurs, mais après on t'aimera peut-être plus. Et puis, ce qui est chouette, c'est d'être vraiment avec les gens que tu aimes. Et enfin, je crois que c'était, voilà, tout ça me paraissait très romantique et ça me faisait sans doute rêver.
Et aujourd'hui, est-ce que ça vous paraît romantique? Est-ce que vous auriez été faite pour être star?
Non,
c'est pas donné
tout.
À tout le monde.
Non, je suis pas du tout capable de ça. Non, pas ça, ça demande des choses dont je suis dépourvue. Et en plus, moi, je pense que je m'y suis vraiment retrouvée. J'aimais bien être maman, j'aimais bien être la femme de Marca, j'aimais bien être l'amie de mes amis, et tout ça a pris très beaucoup de place dans ma vie et je pense que j'ai pas les capacités, non, j'ai pas la force, ouais. Et j'ai pas la détermination pour être une star.
Oui, bah, vous êtes maman de star aujourd'hui.
Oui, ça tombe bien.
Donc, parce que vos enfants, c'est quand même Angèle et Roméo Elvis, pour ouais. Les auditeurs et les auditrices qui ne sauraient pas. Par procuration, ouais. Mais quelque part, ça veut dire que vous voyez dans votre fils que vous n'aviez pas pour y arriver, puisque
oui.
elle a cette détermination.
Oui, oui. Absolument. Ouais. Oui, oui. Oui, et absolument, mon fils et ma fille, je vois des trucs que je n'ai pas. Et ça ne me pose aucun problème, puisque ce sont les gens que j'aime. Donc, quand les gens que j'aime font des trucs très bien, ben vous êtes content pour eux.
Oui, vous dites que ça permet de rattraper un peu certains trucs qu'on n'a pas eu.
Oui.
Ouais, ben
ouais,
voilà,
oui,
c'est bien.
Ah,
hein.
Oui, ah, oui, ah, y a ouais. Plein de trucs que je peux vivre, moi, que je n'aurais jamais vécu sans eux. Oui, oui, c'est sûr.
Bah, on va commencer. Hein, Laurence, vous connaissez les petits papiers.
Oui, ouais. Donc je pioche.
Hein. Voilà, vous piochez.
J'ai déjà plongé. Et donc, c'est marrant. Ténacité. Figurez-vous que je ne suis pas sûre d'être très tenace. Je n'ai pas une grosse résistance, par exemple, à la douleur. Je suis pas très tenace. Moi, je suis souple. Mm-hmm. Voilà, je suis plutôt, je m'enroule, je m'adapte, je suis pas très, mais je manque de ténacité. On dit ténacité.
Ouais, je
manque
crois,
de ténacité.
Ou de tenacité.
Ouais,
ténacité.
Ouais. Je trouve que c'est un de mes défauts.
Ouais, vous dites que c'est une qualité que vous n'avez pas.
Ouais.
Et peut-être aussi que, à certains égards, dans votre métier, parfois, ça vous a manqué. Ça aussi, vous le dites.
Oui, je pense que je suis toujours assez admirative, moi, des artistes qui arrivent vraiment à défendre une idée jusqu'au bout, à être sûrs que c'est ça qu'il leur faut, à mobiliser aussi toute une équipe autour d'eux. Et moi, je ne suis pas très forte là-dedans. Je doute assez vite. J'ai mon instinct. Et puis, si on ne me suit pas, je lâche l'affaire.
Ça veut dire que s'il y a une résistance ou une porte qui ne s'ouvre pas facilement, vous n'y allez pas?
Non. Ouais. Non, c'est pas terrible, je trouve. Mais j'ai réussi à faire mon chemin comme ça. Mais je suis vraiment reconnaissante aux gens qui me font confiance et qui m'aident, parce qu'eux me sont très, très, très précieux. J'ai vraiment besoin, moi, d'être dans un truc de confiance absolue avec les gens avec qui je travaille.
Ça veut dire que vous travaillez aussi en équipe réduite ou de manière peu... Enfin, je pense que vous aimez bien aussi être assez libre dans ce travail, dans ce que vous proposez. Donc, il n'y a pas trop de monde autour?
Non, il n'y a pas trop de monde. Il y a heureusement quelques personnes, surtout quand on tourne seul. C'est assez chouette de ne pas être tout à fait toute seule. Et donc, il y a Denis Hansen qui est producteur et tourneur et qui est là chaque fois. Et c'est très réconfortant. Et puis, il y a la technique. Et donc, ça, c'est chouette. On peut débriefer. On est ensemble et c'est précieux. Mais sinon, non, moi, je suis incapable de gérer des grosses équipes. Je suis incapable de donner des ordres, même à mon chien. Donc, je suis très mauvaise là-dedans.
Ça veut dire que les gens qui sont autour de vous aussi, s'ils vous disent « Ah non, mais ça, c'est pas pour toi », vous renoncez assez vite aussi? Vous avez une confiance totale? Vous n'avez pas envie d'essayer quand même ou de prouver que vous pouvez
Non, je crois vraiment que je ne suis pas très... Ouais, je pourrais... Je vais encore essayer, mais ce n'est pas dit que j'affronte. Non, ce n'est pas dit.
La preuve que vous essayez encore, c'est que vous aviez dit que c'était fini, hein, le seul en scène, malgré tout, on y revient.
Oui, alors heureusement, quand je suis seule, en fait, et si je suis en confiance avec moi-même, là, je peux vraiment bien avancer. Et alors, je propose des trucs que quand je suis un peu sûre de mon coup. Ouais, et alors là, je me confronte. Mais en général, je me dis, bon, c'est déjà assez avancé pour qu'il pige ouais. ou elle pige où je veux aller. Et alors là, ok, on avance ensemble. Mais j'ai vraiment, oui, j'ai besoin d'être en super confiance.
Est-ce que Laurence, le fait de ne pas pousser les portes quand elles ont du mal à s'ouvrir, c'est aussi un peu de l'orgueil ou quelque chose comme de cet ordre-là ? Parfois,
ouais. Ah ouais. Ouais. Bah ouais.
Genre.
Je savais qu'en venant ici, j'allais. Parce que j'ai écouté récemment Nikki, c'est ça
ouais. Nikki, ouais.
Qui semblait aussi découvrir des trucs. Et écoutez, oui, je pense qu'il y a de ça, malheureusement. C'était un truc que mon père reprochait souvent à ma mère. Il disait que son orgueil la perdait. Et je dois dire que je ne suis pas tout à fait contre cette idée. Je pense qu'en effet, ouais, il y a de l'amour propre et de l'orgueil.
L'orgueil, ce n'est pas toujours un défaut non plus. Ça peut être une manière de se protéger.
Oui, mais on dit ça de tous les défauts.
Oui.
On dit toujours que c'est une manière de se protéger. Peut-être, mais ça... Ouais, ça parfois, c'est con parce que aussi, ça empêche parfois d'avancer, ça empêche de se poser des questions ou d'être démuni et de dire tiens, ça je sais pas en fait, ouais. Tiens, prends-moi. Et parfois, l'orgueil, ouais, ça, c'est pas que ça isole, mais ça empêche d'avancer parfois.
Mm-hmm. Ouais. Ça vous a fermé des portes qui étaient entrouvertes, mais qui se sont fermées à cause de ça ? Peut-être à cause de l'orgueil ou d'un.
C'est plutôt que je ne les ai pas ouvertes.
Ouais, c'est
j'ai
ça.
Pas de sentiment d'avoir qu'on m'ait claqué la porte au nez. Non, je ne laisse même pas l'occasion puisque je ne la pousse même pas. Donc c'est plutôt que je ne l'ai pas poussée.
Et c'est quoi les portes que vous n'avez pas poussées, Laurence ? Le cinéma ? Pas assez ?
Bah, je trouve que le cinéma, c'est eux qui ont. Ouais. Vraiment en Belgique, alors j'ai l'impression qu'on n'est pas du tout fait l'un pour l'autre. Que jusqu'il y a un certain temps. Le cinéma belge, j'étais pas pour eux. C'est comme si mon profil, ce que je dégageais, était incompatible avec les scénarios et le cinéma belge.
Ouais.
Tu vois ? Bon, voilà. Et donc, c'était un peu tristounet. Puis j'ai commencé à tourner. J'ai fait quelques tournages récents. C'est chouette, mais en fait, c'est drôle. Hein, avec l'âge, j'étais sur ces plateaux, j'avais un rôle chouette. Je fais la maman. Pour l'instant, je fais des mamans. Je fais la maman de Mirabel, je fais la maman de Guillermo. Et puis, je me dis, le cinéma, c'est quand même la scène, c'est quand même très, très chouette. Parce que le cinéma, c'est quand même très dépendant de ta tante.
Ah ben voilà, on y revient, hein, cette dépendance.
Ouais, Et ça, c'est tellement précieux de pouvoir être autonome et de pouvoir jouer, quoi.
Mm-hmm. Ouais. Laurence, à propos de ténacité, vous avez fait votre vie, par contre, avec quelqu'un qui est très tenace. Votre mari, Marca, qui, j'y pense parce qu'il est venu il y a quelques mois. Et effectivement, Marca, il renonce jamais, en fait.
Oui, on est vraiment différents.
Voilà, et sur scène, il y sera jusqu'au bout. Ouais. Quelles que soient les conditions, ouais. C'est pas grave, il aura une guitare et il sera sur scène.
Oui, enfin, c'est pas grave, c'est ça qui est...
ça ne semble pas grave pour
ça
lui, en tout cas.
Ça ne semble pas grave pour lui, c'est pas grave. Et en même temps, parfois, je suis très admirative de sa ténacité. Et parfois, je me dis, ouais, allez, t'es pas obligé d'aller, t'es pas obligé de tout faire ou d'être dans des conditions qui sont pas du tout faciles. Est-ce que t'es obligé d'aller jusque-là, de le faire ? Est-ce que... Donc, on a parfois vraiment des discussions assez enflammées l'un avec l'autre sur comment on voit notre métier. On est très différents et pourtant, on fait quand même un peu la même chose et on se comprend. Mais c'est vrai que lui, il a une... Ben en fait, ce qui est très chouette avec, je trouve, son parcours, c'est le plaisir. Quoi.
Oui, voilà. C'est ça.
C'est ouais. Qu'il est sur scène, il prend vraiment du plaisir. Et le lendemain, il est content. Et il me raconte son concert et il est content. Et en fait, ce métier, c'est aussi ça. C'est aussi le lendemain être content. Et on est encore, tu vois, on a encore l'énergie de la veille. Et ça, c'est quand même magique.
Ce qu'on n'a pas dit, Laurence, par rapport à ce spectacle, c'est peut-être un peu dans le titre, c'est que... Ben, vous êtes devenue grand-mère mm-hmm. et que ça a eu son importance dans la naissance du spectacle.
Oui, parce que je trouvais ça amusant de parler de quelque chose que je n'avais pas encore vu beaucoup sur scène, même pas du tout en fait. Moi, je n'avais pas vu. C'est normal parce que la génération des filles qui font du stand-up, elles sont même plus jeunes que moi.
Ouais.
Donc, il y a peu de chances qu'elles soient déjà grand-mères. Et donc, je me suis dit, ah, ça, c'est quand même rigolo de pouvoir aller sur un territoire qui n'a pas encore été très exploité et faire des blagues de bobonne. C'est rigolo. Ça me fait rire. Et puis, expliquer un peu. Et puis, me rendre compte de ce que ça me fait. Où je parlais du rapport au temps, qui vraiment est bouleversant parce que ça change tout. C'est-à-dire que vieillir, pour moi, aujourd'hui, n'est vraiment plus un problème. Puisque je sais que les années qui vont venir, cette petite va grandir. Et que c'est que ça qui m'intéresse, en fait, moi. Tu vois, pour l'instant, c'est
ouais, de voir cet enfant grandir.
Évidemment. Ouais. Donc, je m'en fous, moi, de vieillir. Ouais. Si, ça m'ennuie parce que ça réduit le plaisir que je vais avoir avec évidemment les gens que j'aime, mes enfants et ma petite fille. Mais sinon, c'est trop bien.
La gestation du spectacle s'est faite en même temps que la gestation de votre petite fille. Hein. Ça, c'était un peu parallèle, apparemment.
C'est vrai. Je pense que j'ai pris un an à l'écrire. Oui, donc c'est à peu près... Oui, je ne sais même pas si elle n'était peut-être pas encore là. Je ne sais pas si l'idée était déjà là quand j'ai commencé à écrire. Je ne crois pas. Je crois que j'étais encore sur la chanson, sur mon père. Et puis la petite est arrivée.
Et voilà.
Ok, alors est-ce que... alors, apaisement.
Ben voilà.
Ok, on y est.
On vient de parler du fait que...
Que j'étais apaisée.
Par rapport au vieillissement.
À fond.
Ce qui n'était pas le cas la dernière fois que vous êtes venue dans ce studio pour cette émission, il y a quelques années. Ah ouais. Oui, ça semblait un peu vous turlupiner, tout ça, vieillir, mourir.
Alors, je travaille, j'y travaille. C'est-à-dire que depuis peut-être la dernière fois, je bois plus, je fume plus, je fais du sport. Ça aide quand même à... Ça aide. En fait, moi, je voulais bien qu'on m'appelle Bobonne. Mais je ne voulais pas ressembler à une Bobonne. Et donc, je me suis dit, toi, ma fille, tu vas aller me faire des séances d'entraînement intensives dans une salle de sport parce que tu ne vas pas ressembler à ma vision à moi d'une Bobonne. Et je voulais en mettre plein la vue. Donc, j'ai travaillé là-dessus pour physiquement être vraiment en forme.
Ouais.
Parce que j'avais envie, pendant 1h20, de ne pas être essoufflée, de ne pas transpirer, de pouvoir bouger dans tous les sens, de pouvoir faire certains mouvements chorégraphiques dont je
n'effleurerais pas. Oui, très impressionnant. Moi, j'ai été très impressionnée.
J'espère, parce que c'est un peu l'objet, c'est le but.
J'y croyais pas au départ, mais j'ai été vachement impressionnée.
Ah oui, mais c'est-à-dire que j'avais envie que les gens ils en prennent un peu plein la vue. Ouais. Voilà, j'avais envie de leur dire, voilà, allez, hop, c'est le spectacle, quoi. Et donc, peut-être l'apaisement vient de là aussi.
C'est quoi l'image que vous avez d'une bobonne?
Comme je dis, moi, c'est petit. Ouais. C'est petit et ça fait des crêpes.
Ouais.
Donc, moi, je suis pas une bobonne. Et j'ai essayé un peu de résister ça, au nom bobonne qui m'a été attribué par mon fils et mon mari. Et puis, je voyais que ça les amusait trop. Et donc, je me suis dit, je vais prendre. Mais c'est tout très relatif.
Bon, la petite, elle n'a pas encore l'âge de vous appeler.
Non,
donc, peut-être que c'est elle qui va choisir au final.
Je le souhaite de tout mon cœur, Régine. Mais pour l'instant, son père dit beaucoup. On va voir Bobonne, elle est là. Et il ne lâche pas l'affaire, en tout cas.
Oui, d'accord. Ouais. Bon, écoutez.
Mais on ne sait jamais.
Il y a un petit espoir à chaque fois.
Absolument, j'y crois.
Les premiers mots prononcés ne ressemblent pas.
Vous avez raison. Et parfois, on est bien étonné de ce que eux choisissent.
Oui, voilà.
Absolument.
Laurence, à propos de l'apaisement, vous parlez aussi dans ce spectacle de quelque chose qui va parler à beaucoup de femmes qui ont autour de la cinquantaine. C'est de cette espèce d'âge d'or où tout à coup on se sent bien dans sa peau, on est bien, on se pose plus trop de questions et tout. Et puis paf, la préménopause et la ménopause vous tombent sur le coin de la figure.
Ouais.
Et ça remet tout en question, ou en tout cas ça vous remet dans un état qui est parfois proche de l'adolescence. Hein.
Oh là là, alors là, chacun... Oui, alors si ça vous... C'est votre vision, Régine?
Je trouve qu'il y a des moments quand même où hormonalement, on vous ramène à quelque chose qui est proche de ça.
Vous voulez dire dans quoi?
Dans les émotions fortes ou dans le besoin de vivre les choses très fort ou d'être...
Okay. Je suis tout à fait d'accord.
Ouais.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais j'y suis... ça y est, pour moi, c'est passé, c'est derrière. Mais c'est vrai que ces périodes-là, qu'on appelait à l'époque les crises de la cinquantaine, je pense que c'est ça.
Ouais. Pour ne pas dire ménopause,
Peut-être
tout ça.
Peut-être ne pas dire ménopause. Ouais. Ça, c'est clair que ça existe. En tout cas, j'en suis là. En tout cas, moi, je peux témoigner, mais pas maintenant, parce que il est trop tôt. Et... Aujourd'hui, franchement, c'est dépassé. Donc moi, je suis encore, si vous voulez, je suis peut-être plus vieille que vous, Régine. Et donc, j'ai carrément même dépassé cette crise. J'ai dépassé les symptômes de la ménopause. Et je suis dans une espèce de nuage cotonneux comme ça, où je passe encore à autre chose, ce qui n'arrange pas toujours mon partenaire hétérosexuel, parce que je trouve que c'est compliqué d'être tous les deux sur la même ligne question désir. Là, tu te dis, oh là là, comment faire pour continuer à... c'est compliqué, on n'a pas tous le même désir, on l'a pas en même temps, et il faut faire avec.
Ouais. Et ça, vous avez fait le choix d'en parler aussi sur scène, ce qui est plutôt bien, je trouve. Moi, je trouve ça plutôt bien qu'on parle de ce genre de choses, mais c'est aussi assez nouveau. Ce n'est pas des choses qu'on a entendues depuis... ça fait quelques années que la parole se libère autour de ça, mais...
Oui, parce que si on va sur scène, si moi je vais recommencer à raconter des trucs, autant vraiment se poser des questions ou témoigner ou dire « ouais, moi je vis ça, vous peut-être pas, mais moi je le vis, si toi tu le vis aussi, eh ben sache que t'es pas la seule quoi ». Si vous vous posez ce genre de questions, eh ben moi aussi je me les pose et je me les pose devant plein de gens. Donc c'est vraiment une question de, oui, de pas être seule, mais loin de moi l'idée aussi d'appliquer moi mon cas à toutes.
Oui, bien sûr, non, c'est juste...
Voilà, ouais. C'est insupportable de dire « nous les femmes » ou « on ». Moi je parle de mon cas. Et si ça a écho chez certaines, voilà, qui se sentent moins seules, mille fois tant mieux, quoi. Détail. Ok.
Ouais.
J'aime bien les... Ah oui, vous aimez bien les détails.
Oui, j'aime bien les détails. Me semble-t-il.
Oui, j'aime beaucoup. Et je me demande même si je ne pars pas d'abord des détails. Pour ce spectacle-ci, ce n'est pas un détail, mais l'idée de vouloir absolument chanter Star de Françoise Hardy, alors que je ne suis vraiment pas chanteuse, ce n'est pas un détail, mais ça veut dire que je pars parfois du périphérique pour arriver au centre.
Ouais.
Et je peux aussi, si je pense à des personnages ou à des... Je peux sans problème, moi, parler de partir de quelque chose qui semble un peu anodin ou qui semble un détail pour arriver à un truc plus important. Et je me rends compte aussi que quand j'observe les gens, j'observe les détails.
J'allais dire, vous observez beaucoup, je pense. Ouais, en tout cas, pour pouvoir restituer comme ça, ça veut dire que peut-être que vous vous observez vous aussi, d'ailleurs.
Oui, si ça a de l'intérêt. Parfois, par exemple, je suis très en colère et je me dis, ah tiens, regarde un peu comment tu es quand tu es très en colère, parce que ça te servira peut-être. Mais oui, je m'observe, je pense, un peu comme la moyenne. Mais je me rends compte que quand je vais bien, quand je recommence à observer les gens, c'est que je vais bien. Je sais que je passe une bonne journée, que je suis de bonne humeur, quand je peux passer vraiment du temps à rien faire sauf qu'à regarder les gens.
Ah ouais.
Et ça remplit absolument, ça remplit toutes les cases, quoi. Je suis très contente.
Oui, vous pouvez faire ça, vous poser, regarder ce qui se passe autour de vous longtemps.
Oui. Ouais. Après, c'est les circonstances, que je sois dans le bus, dans le tram ou en train de me promener. Mais ça peut remplir tout à fait mon cerveau, mon cœur. Et j'y trouve, quand je suis de bonne composition, je trouve que les gens me proposent des trucs vraiment parfois formidables. Quoi.
L'observation et le sens du détail, si on en revient à votre projet précédent, Je Playback, vous avez aussi reproduit je ne sais combien de playback en vidéo.
Je crois qu'il y en a 180.
Voilà, c'est aussi un sens de l'observation affûtée et un travail sur le détail, parce que c'est ça qui change tout. Alors, pour expliquer aux auditeurs, auditrices qui ne connaîtraient pas, vous avez choisi des femmes qui s'exprimaient dans les médias dans les années 60-70 et vous avez remis une voix et refait les vidéos à votre façon, en étant déguisée, avec le détail, en essayant de reproduire les choses en playback sur la voix de ces personnes.
Oui, on entend la vraie voix. Donc, je pense que ça avait commencé avec une femme qui était dans une équipe de foot féminine et qui était keeper. Et on se moquait d'elle. Et elle était super touchante.
Vous dites keeper.
C'est parce qu'elle le disait. C'était en 69.
Oui.
Et donc, elle était gardienne de but. Et je la trouvais super touchante. Et j'ai trouvé une perruque qui ressemblait à cette dame. J'ai trouvé une vareuse, comme on dit. Et j'ai vraiment fait un playback sur son... Et donc, ça durait entre 30 secondes et une minute. Et en effet, donc, j'essayais d'être le plus proche possible de ces dames. Et aussi dans leur habillement, dans leur coiffure, leur maquillage. Et je m'attachais aux détails. Et c'était assez incroyable parce que j'avais l'impression de rentrer dans leur tête. J'avais l'impression de piger certaines... Je me dis, mais celle-là, elle ment quand elle raconte ça. Parce que quand vous les observez beaucoup de fois, que vous les imitez, vous rentrez un peu dans leur tête. Et c'était... La bouche me donnait énormément d'indications. Comment elles bougeaient, comment les femmes bougent leur bouche, faisait que c'était réaliste et que j'arrivais vraiment à faire le playback.
Est-ce que vous avez, Laurence, rencontré des femmes qui parlaient, sur lesquelles vous avez fait des playbacks ou pas?
J'ai rencontré des femmes qui connaissaient des femmes dont j'avais fait les playbacks. Ouais. Mais la plupart, malheureusement, je pense qu'elles sont décédées.
Ouais.
Et je n'ai jamais rencontré Amélie Nothomb dont j'ai fait le playback.
Eh oui, c'est peut-être encore possible.
Mais évidemment.
Hein, comme le bobonne qui peut changer, hein, ça peut encore arriver.
La vie, vous savez, ouf, voilà.
Vous avez toujours aimé vous déguiser, ça ramène aussi au début de votre parcours, puisque C'est par ça que ça a commencé. Le goût du déguisement, le goût de jouer. Je disais que votre première spectatrice, ça a été votre mère, mm-hmm. que vous avez beaucoup fait rire apparemment, mm-hmm. et ça très très jeune.
Oui, 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 oui. Et je ne me l'explique pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai aimé. Je regardais les gens, elle me perdait littéralement dans les magasins parce que je m'arrêtais pour regarder les gens. Je ne sais pas. Est-ce que... Je sais... Régine, peut-être que vous avez la réponse. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours aimé ça.
C'est vrai que vous vous déguisiez au point de sortir dans la rue quand vous étiez ado et que vos copains ne vous reconnaissaient pas. Et ça, c'était votre moment de gloire à chaque fois.
Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, j'avais vraiment un manteau de fourrure, une perruque, des faux seins. Et mon voisin ne m'a pas reconnue. Et c'était pour moi un triomphe, quoi. Sauf que mon chien me suivait et que j'étais...
Oui, ça c'est
tu
toujours...
Vois oui. Et j'ai dit, mais tiens, rentre à la maison. Oui, c'était un élément qui risquait de me confondre.
Pourquoi est-ce que vous aviez envie qu'on ne vous reconnaisse pas ou en tout cas d'entrer dans la peau de quelqu'un d'autre? Vous l'avez fait pour les playbacks aussi, hein, de vous mettre à la place d'eux.
Ah ben parce que quand vous vous déguisez, en tout cas moi quand je me déguisais, c'était pas du tout pour qu'on me reconnaisse. Je voulais vraiment ressembler à quelqu'un d'autre et je trouvais ça jouissif de ne pas être démasquée. C'était vraiment
c'était
le
un jeu.
Ouais. Ah ouais, c'était le jeu. Je suis jouette, ça c'est sûr. J'aime vraiment bien, j'aime bien jouer. Oui, je suis bonne camarade de jeu.
Ce qu'on n'a pas dit par rapport à Je Playback, c'est que ça a permis aussi de sortir beaucoup de discours de femmes de l'époque et de, quelque part, mine de rien, faire entendre des choses et pointer.
En fait, moi j'ai commencé en regardant beaucoup d'archives de la Sonne Humaine et c'est à force aussi où je me suis dit, ça c'est quand même pendant de nombreuses années, ça a changé au milieu des années 70, début. Vraiment, les femmes à la télé étaient des ménagères, des mères de famille. Il n'y avait pas de femmes représentées dans les métiers. Et c'était essentiellement, comment est-ce qu'on va vraiment... Attention, mesdames, la rentrée arrive. C'est un sujet sérieux, quoi. Qu'est-ce que vous allez mettre? Les bas doivent être vraiment assortis à votre manteau. Sinon, ça n'ira pas. Et c'était très sérieux. Et ça a duré des années. Et puis, on sent que ça bouge un peu. On voit que les femmes commencent à rentrer dans le marché du travail. Enfin, on leur donne un bête travail aussi. C'est pas elles les chefs, quoi. Et ça ne bouge vraiment que très tard, quoi.
L'humour, c'est une manière de pointer des choses, peut-être de dire des choses. Ce que vous faites d'ailleurs encore dans ce spectacle Bob and Star, hein, mine de rien, sous couvert d'humour et de quelques blagues, à un moment, on en arrive sur le sujet de l'avortement, par exemple.
Oui.
Et là, c'est quand même assez catégorique. Vous dites, ce n'est pas un drame, c'est un choix.
Oui, parce que j'ai entendu trop souvent, et encore ces dernières années, qu'on associait toujours l'avortement à un traumatisme, à un drame, à une chose qu'on ne pouvait pas oublier, et qu'on faisait référence à ce texte de Simone Veil, qui dit littéralement, c'est un drame, et cela restera toujours un drame. Je me dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas envoyer ce message-là. Qu'elle l'ait dit, je sais pourquoi, parce qu'il y a une telle résistance du côté des hommes qu'on a été obligé de leur dire à un moment donné, vous savez, on va beaucoup souffrir. Hein. Ah, ouf. Vraiment, je pense que ça les rassurait de savoir que ce n'était pas une chose qu'on allait décider en pleine conscience et ou qui allait un jour, qui allait passer, qui n'allait pas être un traumatisme. Je pense que pour eux, il fallait leur dire, vous savez, c'est un drame. Alors là, ils peuvent l'accepter. Mais ce n'est pas vrai. Je veux dire, je parle de mon cas. Mais je ne suis pas la seule, hein. Moi je connais quand même pas mal de filles, de femmes qui ont avorté, pour lesquelles ça n'a pas été un drame. Alors je ne veux pas rendre, ce n'est pas un truc léger, ce n'est pas que je veux dédramatiser, ce n'est pas que je dis c'est super, allez-y, c'est juste la notion de drame. Je ne suis pas d'accord avec ce mot-là, je trouve que ça ne va pas, on ne peut pas dire ça aux femmes.
C'est remettre un peu les choses au milieu quoi. Ce n'est pas un drame.
Ce n'est pas un drame.
Et si ça l'est pour certaines,
absolument.
C'est possible, mais pas pour
toutes.
Bien
sûr, et j'espère que vous trouverez de l'aide, mais pas pour toutes. On ne peut pas dire ça de toutes les femmes qui ont avorté. Ça n'est pas vrai.
Ouais. Je prends quelques secondes pour vous rappeler que plus ce podcast est écouté et apprécié, et évidemment, plus il a de chances de proposer des rencontres inédites. Nous avons donc besoin de vous. Prenez quelques secondes pour nous laisser des étoiles et des commentaires ou pour faire connaître le podcast à d'autres personnes, pourquoi pas. C'est très précieux et surtout, on vous en remercie d'avance.
J'adore.
Remettez chaque fois vos lunettes. Hein.
Oui. Solitaire. Ah. Alors, oui, ça me correspond, moi, solitaire.
Ouais.
Oui.
Depuis toujours, apparemment.
Oui.
Petite, toute petite, votre rêve, c'était de vivre seule. C'est vrai? Vous avez dit ça que toute petite, vous aviez déjà envie de vivre seule.
En tout cas, j'aimais bien être toute seule. Ouais. Ça ne me posait pas vraiment de problème. C'est-à-dire que j'avais des amis, des meilleurs amis. J'adorais être à l'école, j'avais une chouette école. J'avais mes frères et sœurs.
Ouais, vous aviez une famille nombreuse aussi. Hein, donc,
absolument.
Peut-être ça aide à avoir envie d'être seule parfois.
Vraiment, je crois que ça a été déterminant. Parce qu'en fait, moi, j'étais très entourée, donc... Et je n'avais pas vraiment de difficulté à être toute seule. Et j'aimais beaucoup jouer toute seule. Et ça a continué, en fait. En fait, je pense que je continue à jouer toute seule.
Bah oui, peut-être.
Oui, je suis juste sortie de ma chambre.
Est-ce que cette solitude-là d'enfance a aussi ouvert votre imaginaire? Parce que quand on joue tout seul, forcément, on développe d'autres choses, peut-être, que quand on joue à 3, 4, 5, 2, même.
Oui, je pense. Oui, oui, oui. Oui, parce que vraiment, toute seule, vous pouvez aller où vous voulez. Et vraiment, il n'y a personne qui va vous contredire ou qui va dire « Mais non, la rivière n'est pas dans ta chambre. » Ben si, évidemment. Et je dois la traverser. Donc, oui, je pense que ça... Oui, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de censure. Et puis, heureusement pour moi, j'ai pu faire quelque chose de ça. Peut-être que jouer toute seule tout le temps, c'est un peu triste. Mais ce qui est assez jouissif, c'est de pouvoir jouer toute seule. Et puis, une fois qu'on a bien joué toute seule, c'est de pouvoir aller dire aux autres
regardez
à quoi j'ai joué et regardez l'histoire que je me suis racontée. Et est-ce que ça vous plaît aussi, quoi ?
Ouais, ça, vous l'avez fait. On l'a évoqué déjà plusieurs fois en famille. Est-ce que le retour a été important dans la suite du parcours aussi ? Le fait que vous ayez été validé peut-être dans ce rôle de, je ne sais pas si il faut dire clown ou je ne sais pas, mais au moment où vous avez... amené à votre famille, à votre mère notamment. Est-ce que sa validation a été déterminante pour la suite ?
Oui, sans doute. Ouais. Oui, je pense. Oui, je pense qu'en tout cas, ça fait gagner des étapes. Alors, moi, je ne pense pas que tous les artistes aient été encouragés par leurs parents. Je pense qu'il y en a même qui se sont construits à l'inverse ou contre. Mais en tout cas, dans mon cas, ça m'a fait gagner beaucoup de temps et ça m'a donné une certaine confiance assez rapidement. Ouais. Oui, sûrement.
Je vous posais la question parce que comme vous dites que vous n'êtes pas tenace face aux portes qui se ferment, si on avait fermé la porte chez vous, vous auriez fait autre chose ?
Oui, peut-être.
Peut-être ?
Oui, peut-être. Peut-être.
Ouais. Alors, à la différence de vos frères et sœurs, entre leur naissance et la vôtre, entre le dernier et vous, il y a 6 ans, est arrivé entre les deux 1969. Et à la différence de vos frères et sœurs, vous êtes passé au lieu d'un... Eux ont été dans l'enseignement catholique traditionnel. Vous avez été dans une école qui s'appelait le cours Charlemagne à Bruxelles, qui était une école complètement libre, où on laissait la place aux enfants, comme la pédagogie active aujourd'hui, quelque part, et où il y avait une énorme liberté. Est-ce que ça, ça a été aussi fondateur de ce que vous êtes aujourd'hui ?
Ah oui. Oui, parce que c'était pas courant dans ces années-là, que moi, je venais d'un milieu plutôt traditionnel, bourgeois, classique. Et que tout à coup, je pense que de nouveau, c'est ma mère qui a un peu explosé, qui a choisi cette école. Alors là, elle n'est plus là pour me dire pourquoi cette école. Ça, je ne sais pas qui l'avait conseillée.
Il n'y en avait peut-être pas beaucoup d'autres dans ce style à l'époque.
Non, mais pourquoi elle a choisi ça ? Parce qu'elle-même, je crois, étant en révolte contre son milieu, s'est dit, ma fille, elle ira dans une école comme ça. Et là, je me suis retrouvée dans une école où finalement, il y a beaucoup aussi d'enfants, d'artistes. Il y avait les enfants de Marco Abramovitch qui a créé les plannings familiaux.
Ouais.
Il y avait les enfants de dessinateurs, de profs. Et c'était, en effet... Quand vous dites pédagogie, c'était carrément pilote. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'en foutait pas une, quoi. Mais c'était super.
Je connais d'autres gens qui sont passés par là, qui disent la même chose.
Ah oui, par le cours Charlemagne.
Oui, oui.
Il faut on peut me les présenter. On va comparer ces dictées. Parce que moi, je suis toujours incapable d'écrire sans faire de faute. Oui.
Ouais. Par rapport au fait que vous êtes solitaire, Laurence, est-ce que... Seul en scène, c'est bien aussi. C'est mieux qu'à plusieurs en scène, parce que vous avez fait du théâtre avec d'autres et tout. Et est-ce que votre côté solitaire, il se retrouve bien aussi dans le fait d'être seul sur scène ?
Oui, mais ce n'est pas parce que c'est mieux. Mais quand on est à plusieurs, il faut vraiment une magie. Et ça m'est arrivé dans Cendrillon ce macho. Il faut vraiment une magie pour qu'on s'entende tous bien et que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde sur scène donne le meilleur de lui-même et s'y retrouve. Et c'est très, très rare. Quand ça arrive, c'est vraiment le paradis. Et on peut tourner des années avec la même troupe parce qu'on est tous, dans le même truc et ça crée vraiment des liens très forts. Mais comme ça arrive vraiment rarement. En fait, je suis vraiment... Alors, je suis pas tenace, mais je suis pas cynique, moi. Si ça me plaît pas, je sais pas vraiment faire semblant. Si je suis pas heureuse, ça me pèse vraiment beaucoup. Je sais pas me dire, fais-le, allez, prends sur toi, ou c'est de l'argent, ou c'est des jours, c'est du temps. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc, mon exigence, elle est quand même assez haute. Et je sais que seule, je vais m'y retrouver. Je sais que seule, si j'ai fait tout pour que le spectacle soit bien, je vais m'amuser. J'y vais pas à contre-cœur. J'y vais pas pour pas m'amuser. J'y vais pas pour faire semblant. J'y vais vraiment pour que ça soit plaisant. Et donc, toutes les conditions doivent être réunies. Et quand on est plusieurs, c'est pas toujours le cas.
Ça veut dire que vous dites facilement non ?
Oh oui, hélas, hélas.
Pourquoi hélas ?
Ben parce que c'est aussi un truc qu'on me reproche. Oui, qu'on m'a beaucoup reproché. Oui, je dis beaucoup plus facilement non que oui, absolument. Oui.
À quoi vous dites non ?
À ce que je ne connais pas, à ce qui pourrait m'amener dans des trucs inconfortables, plein de choses, à des gens que je ne connais pas, plein de trucs où j'ai dit non, plein. Bon, alors, est-ce que c'est le dernier ? Papa, alors... Eh bien, il ouvre le spectacle. Alors, je vois beaucoup je regarde beaucoup Instagram et je vois beaucoup de stories passer en disant « Enfin, un livre qui ne parle ni du père, ni de la mère, de l'auteur ou de l'autrice. » Comme si aujourd'hui, c'était vraiment devenu le truc bateau et le truc dont on ne pouvait plus parler. Oui et non, c'est pas vrai. Moi, je trouve que les gens, s'ils parlent bien de leurs parents, de leurs enfants, ou de leurs frères et sœurs, pourquoi pas ? Je m'en fous, c'est pas ça, moi, qui me dérange. Dans la littérature, en tout cas. Et mon père, ça me semblait assez intéressant. Pas parce que je voulais parler de mon père, mais parce qu'il fait partie d'une génération d'hommes qui existent moins aujourd'hui. En tout cas, moi, j'en connais moins. Qui sont ces hommes, qui sont nés pendant la guerre et qui, c'est le moins qu'on puisse dire, n'étaient pas vraiment en connexion avec leurs émotions, qui n'avaient pas appris, qui venaient d'un enseignement assez rigide, qui avaient dû prendre des responsabilités tôt. C'était des hommes qui travaillaient. Ma mère, elle en... Très chouette, mais elle n'en foutait pas une. Il y avait quand même 5 enfants. Donc, mon père, il a dû assurer. À côté de ça, il y a 1001 trucs et choix qu'il a fait et manières d'être que je ne comprends toujours pas. Mais ça m'intéressait de parler de ces pères-là, en fait, de ces hommes-là. Il y avait un ami qui m'a dit, c'était chouette, je trouve. Il me dit, ouais, c'est des hommes silence. C'est des hommes qui ne parlaient pas. Et je trouve que c'est assez vrai. En tout cas, c'est des hommes qui ne se plaignaient pas beaucoup, qui ne parlaient pas beaucoup d'eux.
Vous le faites, vous parlez de votre père avec des choses que vous racontez qu'on peut considérer comme assez dures pour un enfant, hein. Mais vous le faites de manière assez subtile, sans charger ou sans régler de compte.
Ah oui, ça, c'est important. Oui, parce que le temps a passé, parce que je peux comprendre, parce que la scène, ça sert aussi à ça, ça sert à mettre à distance, et la distance, elle est là depuis quand même assez longtemps. Donc... j'ai pas de compte à rendre, mais j'avais envie pour moi et aussi pour mes frères et sœurs et aussi pour les gens qui ont peut-être eu des pères comme ça, de dire quand même c'était en effet pas tout à fait normal, c'est pas bien, ça peut causer des dégâts, mais voilà, moi franchement je m'en suis remise et puis ça me construit quoi, ça me constitue.
C'est important pour vous Laurence quand vous écrivez un spectacle, mais même que ce soit dans une chronique ou dans toutes circonstances, de faire attention à ne pas blesser. Ou de faire gaffe à ça ?
Oui, en tout cas, j'essaie toujours de voir la personne qui ne va pas comprendre ou la personne qui peut me dire le contraire de ce que je dis. J'essaie toujours quand même de m'imaginer en face de moi un contradicteur, tu vois. J'essaie toujours de me dire, allez, va. Et en même temps, j'essaie d'aller le plus profond et d'être vraiment honnête. C'est toujours un peu la même chose. L'idée, c'est en tout cas de ne pas frapper sur des gens qui ne savent pas se défendre. Voilà. On sait bien qu'on peut se moquer des puissants et on n'a pas envie de se moquer des gens plus faibles parce qu'ils sont, enfin, c'est bon, ils sont déjà suffisamment à terre. Donc c'est plutôt ça la règle, en fait. C'est de savoir à qui on s'adresse et de savoir de qui on se moque ou de, ce qu'on critique. Mais c'est évident que moi, je n'ai pas du tout envie de blesser des gens.
Ça vous est arrivé, sans le faire exprès ? On est venu vous dire ou pas, jamais ?
Oui, il y a une fois, et ça m'a marqué parce que je faisais une blague dans tout premier spectacle. Et elle a été prise comme raciste par un monsieur qui était noir et qui m'a dit « Mais vous vous rendez compte de ce que vous avez dit ?» Et pour moi, c'était de l'humour. J'étais choquée parce que ce n'était pas ça que je voulais faire. Et ça m'a quand même fait réfléchir. je pense qu'on doit quand même écouter les retours. On doit quand même, si des gens après le spectacle viennent vous dire j'ai été blessé, ça m'est arrivé une fois dans toute ma vie. Et après, plus jamais j'ai eu des gens qui sont... Mais je crois que ça m'a un peu servi de leçon sur faire gaffe à ce que je raconte, quoi. Ouais. Ou en tout cas, être bien clair que c'est un personnage qui le dit et pas moi. Et qui est ce personnage, ou est-ce qu'on a envie de l'aimer ou de la détester? Donc de faire gaffe à ça, oui.
Est-ce qu'aujourd'hui, il faut faire plus attention?
Non, je pense pas. Non. En fait, aujourd'hui, après avoir bien réfléchi à la question, je pense juste que... pour moi, sur la scène, c'est à peu près toujours la même chose. Je pense que tous les gens qui font du seul en scène vous diront non, en fait, on est assez libre parce qu'il y a un public restreint dans un lieu qu'ils sont venus, qu'ils ont choisi, qu'ils ont payé, qu'ils savent ce qu'ils viennent voir. Le truc, c'est les réseaux sociaux, puisque là, vous êtes diffusé devant des gens qui ne vous connaissent pas, qui n'ont peut-être même pas choisi de vous voir et qui vous tombez dans leur fil ou vous tombez dans le fil de quelqu'un qui ne vous aime pas, qui montre ce que vous faites. Et donc, c'est ça, c'est parce que ça s'adresse à beaucoup trop de monde. Pour moi, pour être encore juste, c'est pas possible de plaire à autant de monde. Donc forcément, dans ce que vous dites à un moment donné, en touchant autant, vous risquez beaucoup plus. Mais c'est ça le problème, c'est la diffusion, c'est pas vraiment ce qu'on dit. Après, ce qu'on dit est beaucoup plus remis en question, mais ça, c'est intéressant. Même si parfois, moi-même, j'étais victime de trucs où je ne comprenais pas ce qu'on me reprochait. Je trouvais que les gens n'avaient pas compris et je trouvais que c'était même de la censure et ça me rendait dingue. Par ailleurs, il y a quand même mille et une fois où ce sont des bonnes questions qui se posent et c'est intéressant de se dire pourquoi tu fais ça, d'où tu parles, à qui tu parles, quoi.
Je reviens au mot papa un instant pour terminer, parce que dans Bobonne Star, vous devenez grand-mère, mais en devenant grand-mère, votre fils devient père. Oui. C'est quelque chose aussi, ça, quand même, non?
Ah oui, ça, c'est super. Oui, c'est super parce que vous voyez votre grand garçon qui, tout à coup, l'ange, un bébé, les doigts dans le nez, et vous dit, fais quand même attention. Donc, oui, c'est super.
Oui,
c'est
ça
super.
Change le rapport, évidemment. Enfin, je ne sais pas si ça change le rapport. Est-ce que ça reste votre grand garçon ou est-ce que tout à coup, ça devient...
Non, je crois que ça reste toujours. Et c'est ça qui est à la fois fabuleux et à la fois très énervant. C'est que vous gardez à peu près toujours, je crois, la même place dans une famille. Et que moi, je suis la petite dernière, j'ai 57 ans. Ça bouge parfois un peu, mais aux yeux de mes grands frères et grandes sœurs, je suis toujours la petite dernière.
Ils vous traitent encore comme ça aujourd'hui?
Oui.
Oui. Ça se manifeste comment, à 57 ans?
On me laisse assez peu de responsabilité.
Oui. C'est pas vous qui organisez les repas de Noël et les trucs comme ça, non?
Non, et je pense qu'elle me croit moyennement capable, ce qui, d'une certaine manière, m'arrange bien.
Mais c'est vrai
bien.
Ou pas?
Moyen. C'est moyen, vrai. Oui. Mais je crois que si tu le fais jamais, tu le fais jamais bien. Oui. C'est parce que tu... Voilà. Mais ça bouge quand même un peu. Ça bouge. Je me dis, ah oui, tiens, elles m'ont prise au sérieux sur ce truc-là. Ah oui, quand même. Oui. Mais je pense que mon fils, il reste toujours... Ouais, ça reste toujours mon grand garçon. Mais c'est quand même... C'est super, en fait, de le voir papa. C'est très touchant. Là, je pleure plus. Mais les premières fois, on pleurait tous.
Ah ouais?
Ah ouais, oui, on a une famille émotive, donc ouais, c'était touchant.
Vous voudriez être bobonne de combien de petits-enfants?
Oh, de plus qu'un.
Ouais.
Mais alors...
Genre 4 ou genre 10 ou 12?
Autant qu'ils veulent.
Ah ouais.
Mais je pense que ça n'arrivera pas, merci Régine, mais 12, ça fait quand même, je ne sais pas combien par enfant, mais ça me semble beaucoup.
Bah, ça peut être 11 et 1, ou ça peut être 6 et 6, ou 4 et 8. Hein.
11 et 1.
Il n'y a pas de rêve.
Oh, je rêve. Non, mais j'espère plein, et je suis bien entourée, hein, parce que ma belle-fille, elle est très très cool aussi, donc... Et comme la petite est cool, je me dis, ah, ça c'est pas mal d'avoir un premier cool. Parce que là, tu crois que ça va toujours être comme ça, ce qui n'est pas vrai.
Et t'en fais d'autres.
Je n'aurais pas dit, oui. Et t'en fais d'autres.
Exactement. J'espère qu'il n'écoute pas.
Non, j'espère aussi.
Merci Laurence. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner. Il y a plein d'invités dans Les Petits Papiers et dans tous les domaines de la culture. On parle de cinéma, de théâtre, de littérature, de danse, de musique, de bande dessinée. Bref, il y en a pour tout le monde. Et puis, vous pouvez aussi laisser des étoiles, des commentaires. C'est bien, ça nous fait du bien. Et même nous envoyer un mail. Nous avons une adresse, lespetitspapiers@rtbf.be. À bientôt.